Bonjour à toutes, bonjour à tous. Bienvenue dans Culture Monde, votre magazine international que vous retrouvez du lundi au vendredi sur France Culture. Le vendredi, c'est un débat sur l'actualité internationale avec nos partenaires du monde. Bonjour Marc Semo.
Bonjour.
On va parler cette semaine de la Colombie. Dimanche dernier, le texte sur l'accord de paix obtenu à l'issue de près de 4 ans de négociations qui s'était tenu à Cuba entre l'État colombien et les FARC a été rejeté lors d'un référendum. En effet, malgré une faible participation, un peu plus de 37% de votants, c'est par une majorité, une courte majorité, mais majorité quand même, 50,2% que les Colombiens ont décidé de ne pas valider le texte, plongeant le pays dans une grande incertitude quant au devenir de la paix. Un choix difficilement compréhensible pour un conflit qui dure depuis plus de 50 ans et qui a fait plus de 260 000 morts, 45 000 disparus, 7 millions de déplacés, et pour lequel on avait finalement trouvé un terrain d'entente autour de ce texte signé à Cartagène par le président et le chef des FARC. Alors comment comprendre ce choix? L'accord peut-il encore être sauvé? Et comment, et d'ailleurs, que contenait cet accord précisément? Le cessez-le-feu bilatéral entré en vigueur le 29 août dernier est-il remise en question? La paix en Colombie est-elle encore possible? Voilà le titre qu'on a choisi ce matin pour évoquer ces questions avec nous, d'ores et déjà en studio, Daniel Pecot. Bonjour.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être avec nous, Daniel Pecot. Vous êtes un spécialiste de la Colombie, directeur d'études à l'EHESS. À vos côtés, René Frégosi. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes, vous, philosophe et directrice de recherche en sciences politiques à l'Institut des hautes études d'Amérique latine. Avant de vous retrouver les uns et les autres, place à notre retour d'eux en partenariat avec l'association des prix Albert Londres. Le journaliste qu'on reçoit ce matin nous revient des Philippines. C'est Harold Thibault. Bonjour, Harold Thibault.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes journaliste au Monde. On vous reçoit pour plusieurs articles, mais un qui va paraître aujourd'hui dans le journal Le Monde. Vous connaissez bien les Philippines. Vous y êtes allé régulièrement. D'ailleurs, vous y étiez au moment des élections présidentielles. Vous êtes retourné à Manille alors que le pays s'est doté maintenant d'un nouveau président, élu en juillet dernier, qui fait régulièrement bondir le monde, pas avec ses provocations, que ce soit par ses excès de verbe, pratiquant régulièrement l'insulte à l'égard des chefs d'État, notamment Barack Obama ou alors le pape récemment, mais aussi pour sa lutte anti-criminalité qui fait assez peu cas, disons, du respect du droit et de la démocratie, pour le dire vite. Durant sa campagne, Rodrigo Duterte, puisque c'est son nom, avait promis de remplir les morgues et il semble tenir sa promesse puisque ces fameux escadrons de la mort ont fait environ 3500 victimes en moins de 3 mois, 47 morts par jour en moyenne, dites-vous, des personnes soupçonnées d'avoir un rapport avec le trafic ou la consommation de drogue. Est-ce qu'on a une idée, Harold Thibault, de ce qui se cache derrière ces escadrons de la mort? Il y a quelques indications qui laissent penser que peut-être il pourrait s'agir de policiers. C'est d'ailleurs une information qui avait été donnée par le Guardian.
Il y a plusieurs choses. D'abord, il y a la possibilité qu'il y ait des règlements de compte entre gangs, puisque finalement, il a laissé un blanc-seing. Donc, il y a un permis de tuer. Du coup, des gangs en profitent pour se détruire. Et ensuite, il y a la possibilité qu'il y ait la police derrière certains de ces assassinats. On voit notamment, il y a le cas d'une femme qui a témoigné devant le Sénat, qui a dit que ses deux parents avaient été tués parce qu'en fait, il réemballait la drogue que lui donnait la police après les saisies. Et avec la lutte contre la drogue de Duterte, ses deux parents étaient devenus embarrassants. Et donc on voit que si Duterte continue sa campagne, les têtes vont tomber. Et donc c'est le grand nettoyage, en fait, sous couvert de lutte contre le trafic de drogue.
Alors ce grand nettoyage, Harold Thibault, en général, il se passe la nuit. Racontez-nous un peu la méthode. En gros, comment ça se passe?
Alors, il y a 2/3 des morts. Donc là, on est à peu près à 3600 morts. Évidemment, ça change, le bilan change quotidiennement. Les 2/3 sont le fait de tueurs de l'ombre. En général, c'est des tueurs à moto qui passent casqués ou couverts d'un bonnet et qui abattent comme ça au revolver des types qui traînent dans la rue. Généralement, c'est des personnes qui ont déjà été identifiées. Parce que lorsqu'il arrive au pouvoir, Duterte a dit à tous les toxicomanes et aux dealers, rendez-vous à la police, nous allons vous aider. Et du coup, la police a des listes de toxicomanes qui sont identifiés.
Comment est-ce qu'on dresse ces listes, justement, sur quels critères?
Alors, il n'y a pas de critères fixes. Il y a des listes au niveau du quartier. C'est les gens qui se sont présentés de bonne foi à la police en disant « Moi, je suis accro à la méthamphétamine. Duterte veut lutter contre la drogue. Donc, je joue le jeu. Donc, je me présente. » Il y a beaucoup de gens qui se sont présentés pour la bonne et simple raison qu'ils ont peur pour leur vie s'ils ne jouaient pas le jeu de Duterte.
Beaucoup de personnes, il faut dire le chiffre, hein, environ 700 000 personnes qui se sont rendues à la police pour dire qu'ils étaient soit dealers, soit consommateurs de drogue. C'est colossal.
650 000 simples consommateurs, usagers et 50 000 petits dealers de quartier. Du coup, les prisons sont pleines à craquer. Encore une fois, c'est la peur qui fait que ces gens se laissent présenter à la police.
En théorie, ce qui se passe quand ils vont se présenter, c'est qu'on les met en prison. Ça, c'est la théorie.
Alors, si on a des éléments contre eux, on les met en prison. Sinon, ils rentrent chez eux, en fait, mais ils sont sous surveillance. La police mène une opération qui s'appelle Oplan Tokang, qui veut dire opération porte-à-porte. En fait, ils surveillent les éléments du quartier. Ils jettent un œil. Est-ce que un tel a fait un effort pour arrêter la drogue? Évidemment, il n'y a pas de critères objectifs. Et comme la police doit tenir des chiffres, il y a beaucoup des gens qui sont sur ces listes qui se font abattre par ces gens qui font en fait le sale boulot la nuit.
C'est par exemple le cas de ce jeune toxicomane de 23 ans, Sandrex Ampohan, qui s'est présenté à la police il y a quelques semaines. Il est rentré chez lui et finalement il a été abattu il y a quelques jours, le 23 septembre dernier.
Voilà, donc moi je suis allé voir sa famille pendant qu'elle veillait le corps. Donc les Philippins sont des catholiques très croyants, donc ils veillent le corps pendant une semaine publiquement, donc il y a tout le quartier qui vient voir. J'ai vu son frère, également sa mère. Ce qui m'a marqué quand j'avais parlé avec son frère, c'est qu'en fait il avait encore le bracelet en caoutchouc de la campagne de Duterte, avec marqué « Duterte est notre homme ». Donc dans les quartiers, en fait, Duterte a été très soutenu. Il l'est encore très largement, parce qu'il a promis la sécurité et la lutte contre la drogue. Et finalement, c'est un objet qui séduit tout le monde.
Et ce que vous dit la mère justement de Sandrex Ampohan, c'est qu'il a été exécuté par des gens du quartier, par des gens qui forcément le connaissaient ses habitudes.
Il a été exécuté par des gens du quartier parce que les gens savent que en fin de soirée, il aimait bien discuter avec ses amis, il traînait sur le rickshaw d'une amie. Surtout, il a été abattu sous une caméra de surveillance. Donc, il y a des caméras de surveillance dans les quartiers un peu chauds de Manille. Il a été abattu sous l'angle de cette caméra de surveillance. Donc, je suis allé voir la police avec le frère de cette victime et nous avons demandé les bandes de cette caméra. On nous a répondu, pas de chance, comme il a plu pas mal ces derniers jours, il y a un typhon qui passait dans la région, la caméra a rendu l'âme. Mais on voyait la lumière infrarouge qui tournait encore.
Il faut nous raconter aussi l'histoire absolument incroyable de cet homme qui a été victime donc, d'une de ces attaques par un escadron et qui en a réchappé. C'est Francisco Santiago Junior, qui est surnommé le Lazare de Béthanie, en référence à l'évangile selon Saint Jean, dans lequel il ressort de son tombeau. En fait, cet homme, il a survécu. Et visiblement, il n'était pas en train d'acheter ce qu'on appelle le chabou, la méthamphétamine, quand il s'est fait tirer dessus.
En fait, il était avec un ami. Tous deux ont été abattus enfin, ils se sont fait tirer dessus par des tueurs à moto. Et donc, lui est tombé au sol. Il était noyé dans son sang. Et la police a dit, nous menions une descente anti-drogue. On les a pris en flagrant délit. Ils nous tiraient dessus et donc, on n'a pu que répliquer. Donc, c'était de l'autodéfense. En fait, le type est tombé au sol. Il a fait semblant d'être mort pendant une heure parce qu'il savait que s'il bougeait avant que les photographes ou que la presse arrive, les policiers allaient l'achever. Et donc, c'est que quand la police scientifique était arrivée et qu'il y avait cette ligne « Police line, do not cross », que les photographes étaient derrière, que ce jeune homme a levé le bras et a dit « en fait, je suis vivant ». Et il a pu témoigner du fait que c'était pas la version racontée par la police n'était pas du tout véridique.
Harold Thibault, il y a une chose qui est absolument frappante, c'est que l'opinion a l'air d'être assez largement favorable à ces exécutions. Les personnes que vous avez rencontrées vous ont à peu près toutes dites, peut-être pas toutes, mais en tout cas beaucoup, vous ont répété qu'elles soutenaient finalement Duterte dans cette vague répressive, meurtrière. 91% d'opinion favorable au milieu de l'été.
Alors ça a changé un peu, c'était 91% au milieu de l'été, fin juillet. Là on est plus dans les 60-70%, ça reste quand même très élevé.
Comment le comprendre ?
Vous arrivez à Manille, vous prenez un taxi, vous demandez à n'importe quel chauffeur de taxi, ils vont vous dire Duterte, nous on est fans, parce que les élites de ce pays n'ont pas su régler les problèmes. Duterte, lui, a promis des résultats express. Il a dit en 6 mois, il n'y aura plus de criminalité, il n'y aura plus de drogue. On a un peuple qui est fatigué de l'inefficacité de ses dirigeants et qui est prêt à accepter des méthodes extrêmes. Finalement, c'est ça qui est assez triste, c'est que les Philippins d'eux-mêmes ont accepté cet homme qui lève complètement les barrières qui sont censées protéger les Philippins.
Y compris des gens qui ont été victimes de violences. Je pense par exemple à Marie Henriquez, qui est une ancienne victime de l'époque de Ferdinand Marcos, qui a dirigé la dictature de 65 à 86.
Ouais.
Et même elle, qui est une militante des droits de l'homme, elle soutient Duterte.
Alors, Elle soutient la campagne anti-drogue. Elle soutient pas les exécutions extrajudiciaires. Mais on peut se dire que pour une activiste des droits de l'homme, elle pourrait être quasiment 100% anti-Duterte. C'est pas le cas. Finalement, à part les familles de victimes donc concernées directement par ces meurtres, la population est très largement favorable à Duterte. Encore une fois, parce que les gens ont soif de résultats. Ils ont l'impression qu'il n'y a aucune autre méthode qui peut aider les Philippines.
Le Dangerous Drugs Board, qui est un organe du gouvernement philippin en charge de la lutte anti-drogue, dit qu'officiellement il y aurait 1,8 million d'usagers de stupéfiants sur les 100 millions d'habitants. Duterte, il est à la tête de l'État pour 6 ans. Si je m'en réfère à votre chiffre, c'est-à-dire 47 meurtres par jour, si on fait un horrible calcul morbide, on arrive à la fin des 6 ans à 100 000 personnes environ. Donc on voit bien là qu'on ne parviendra pas avec cette stratégie à éradiquer l'ensemble des consommateurs. Est-ce que ça veut dire que l'objectif est ailleurs ?
D'abord, il y a une certaine peur également qui s'installe. Donc, il y a des gens qui ne sont pas abattus, mais qui vont arrêter la drogue ou qui vont arrêter le trafic de drogue. Donc, Duterte se targue d'avoir des résultats. On ne peut pas lui reprocher. On peut lui reprocher la méthode, mais les résultats, ils existent.
D'accord, je vous pose la question autrement. Est-ce qu'on pourrait imaginer, est-ce qu'il faut craindre que finalement cette répression soit également pour Duterte une opportunité pour faire un peu le ménage du côté de l'opposition ?
Alors, je pense surtout que c'est son seul programme en fait. C'est un type qui était maire d'une ville du sud du pays, qui n'a pas d'expérience au niveau national, qui n'a pas d'expérience réellement des relations internationales, qui n'a pas de programme de développement économique. Son seul programme, c'est la lutte contre la drogue et de donner aux échelons locaux plus de pouvoir contre les élites de Manille. Donc, on peut imaginer que c'est le seul élément de légitimité pour lui, c'est d'avoir des résultats dans la lutte contre la drogue.
La sénatrice et présidente de la Commission des droits de l'homme, Leila de Lima, semble être visiblement dans le viseur de Duterte.
Voilà, donc c'est une ancienne ministre de la Justice de 2010 à 2015. Elle avait déjà enquêté sur les méthodes qui avaient été employées par Duterte dans sa ville d'Avao, où était apparu, donc il en a été maire pendant 22 ans, et c'est là-bas qu'est apparu un escadron de la mort qui a fait plus d'un millier de victimes durant ces deux décennies. Duterte a pas menti, hein, il a dit je vais employer les mêmes méthodes au niveau national. Et donc elle essaye d'enquêter là-dessus. Résultat, on lui sort des attaques politiques assez sales, on l'accuse d'avoir couché avec son chauffeur, ce qui est complètement misogyne parce que Duterte lui-même s'est vanté de ses multiples maîtresses pendant sa campagne.
Ouais, mais c'est pas pareil, c'est un homme.
Exactement.
Je voudrais qu'on revienne un instant sur une affaire qui remonte maintenant, mais que vous évoquez dans un de vos papiers qui a été publié. Mai 2002, une bombe explose dans un hôtel au sud du pays, à Davao. L'occupant de la chambre, c'est un Américain, Michael Mehring. C'est un homme qui se dit chasseur de trésors. Et donc, il va se retrouver grièvement blessé. Il est transporté à Manille pour être hospitalisé. Mais c'est un peu particulier puisqu'il est accompagné par des agents du FBI qui lui affrètent un avion spécial. Ce qui n'est pas toujours le cas quand on a un petit pépin en vacances. À l'époque, le maire de Davao, c'est Rodrigo Duterte. Vous nous racontez cette histoire parce que c'est le fondement aussi peut-être de l'anti-américanisme de Duterte.
Duterte, il est convaincu que ce Michael Mehring, donc c'est mai 2002, donc quelques mois après le 11 septembre 2001, on est dans le sud des Philippines, une région musulmane, il y a une insurrection violente, il y a un groupe terroriste qui s'appelle Abu Sayyaf. Duterte, il est convaincu que ce Michael Mehring, c'était un agent américain qui était là pour placer des bombes, pour finalement convaincre les Philippines de se rapprocher des États-Unis dans la lutte contre le terrorisme. Donc il est persuadé que les États-Unis sont dans le complot et manipulent la politique philippine.
C'est une hypothèse plausible ?
C'est possible parce que...
La bombe, à quoi est-ce qu'elle aurait pu servir ?
La bombe, elle aurait servi à faire des victimes dans cette région musulmane et du coup à convaincre les Philippines qu'il y a un problème musulman. Et donc, on est juste après le 11 septembre, donc du terrorisme islamiste dans le sud des Philippines, ça pousse les Philippines à se rapprocher des États-Unis. C'est pas impossible. Et donc cet homme, il a été hospitalisé à Davao, mais très vite, des agents du FBI sont venus le chercher. Ils ont affrété un avion exprès entre Davao et Manille. Et ensuite, il a été exfiltré vers les États-Unis. Donc c'est pas possible, c'est pas impossible qu'il ait un fort lien avec les services américains.
Sauf que ça a été complètement contre-productif, puisque Duterte, il a répété plusieurs fois qu'il voulait déployer une politique étrangère indépendante, autonome, et en particulier vis-à-vis de l'allié historique que sont les États-Unis. Il faut rappeler qu'au XXe siècle, au début du XXe siècle, les États-Unis ont encouragé le mouvement d'indépendance philippin. Ils sont même intervenus militairement pour le soutenir. Et puis plus récemment, évidemment, ce sont les États-Unis qui ont libéré les Philippines du Japon et qui ont permis de mettre le pays sur la voie de l'indépendance. Duterte, il a eu des mots, on le sait, extrêmement crus à l'égard du président américain. Il y a une énième insulte qui faisait référence à la mère du président américain, qui a d'ailleurs provoqué un incident diplomatique puisqu'il devait y avoir une rencontre entre les deux qui a été annulée. Est-ce que c'est le début de la fin de l'alliance entre Manille et Washington ?
On ne sait pas ce qui relève de la stratégie maîtrisée et ce qui relève du seul fait que Monsieur Duterte ne sait pas tenir sa langue. Ce qui est sûr, c'est que pour un leader populiste, et on voit que Monsieur Duterte est l'archétype du leader populiste, tenir tête aux États-Unis, ça paye vis-à-vis de l'opinion philippine. C'est un peuple.
Les Philippins sont favorables à cet éloignement de l'allié américain.
Les Philippins sont favorables à ce que les Philippines se fassent respecter. On a un peuple qui a le sentiment de servir le reste du monde. Hein. Vous avez les hommes beaucoup travaillent sur des chantiers dans le Golfe. Vous avez pas mal de femmes de ménage. Vous avez pas mal de gens qui travaillent dans des call centers pour servir les Américains. Donc cette fois-ci, Duterte dit on va se faire respecter et tout ça c'est grâce à moi.
Ouais,
donc,
visiblement c'est pas seulement que des mots parce qu'il y a une coopération militaire qui est très importante entre Washington et Manille. Là il y a eu très récemment des exercices militaires notamment dans le domaine naval. Et Duterte il a dit que ce seraient les derniers.
Il joue un jeu extrêmement risqué. Vous avez la Chine qui est de plus en plus agressive dans la région, notamment en mer de Chine méridionale, donc la mer qui sépare la Chine, le Vietnam, les Philippines. Et son prédécesseur, Aquino, s'était rapproché des États-Unis parce qu'il voyait cette menace et en sachant que les Philippines n'ont pas les moyens de se défendre. Jusqu'à il y a quelques mois, ils n'avaient pas d'avions de chasse. Là, ils en ont acheté deux à la Corée du Sud. Lui... Sa théorie, c'est qu'en étant plus soft avec la Chine et plus dur avec les États-Unis, la Chine offrira des investissements, sera prête à ouvrir une fenêtre de discussion avec les Philippines. C'est un jeu extrêmement risqué.
D'accord, parce que il joue sur un rapprochement avec Pékin, très concrètement.
Il joue sur un rapprochement avec Pékin. Ça repose sur l'idée que les Chinois sont prêts au compromis. C'est pas du tout certain aujourd'hui, parce qu'on a un président chinois, Xi Jinping, qui est particulièrement confiant. On voit pas trop pourquoi il reculerait sur la mer de Chine méridionale. Et donc, se rapprocher un peu de la Chine, c'est pas absurde, mais s'aliéner complètement à la défense des États-Unis, c'est très très risqué.
Merci beaucoup, Harold Thibault, d'avoir été avec nous ce matin.
Drugs must be stopped. Oh, kamusta ang buhay nyo? May nangyari na ba pagkatapos ng termino ni Ginoo?
Voilà, c'était avec ce rap philippin, un rap qui d'ailleurs a fait l'éloge de Duterte. Qu'on vous quitte, Harold Thibault, et je rappellerai que votre article il sera publié aujourd'hui dans le journal Le Monde, j'avais oublié de le préciser, je le redis, merci infiniment. On va tourner notre page philippine pour se diriger du côté de la Colombie pour notre table ronde consacrée à la paix en Colombie.
France Culture, Culture Monde, Florian Delorme.
Alors que tout le monde s'attendait à ce que le référendum sur l'accord trouvé entre l'État colombien et les FARC soit validé par le référendum du 2 octobre dernier, le peuple colombien en a décidé autrement.
Non me rendiré. Seguiré buscando la paz.
Je ne me rendrai pas. Je continuerai de chercher la paix jusqu'aux dernières minutes de mon mandat. C'est le chemin pour laisser un meilleur pays à nos enfants.
Les FARC maintiennent la volonté de paix et réitèrent leur disposition à n'utiliser que la parole comme arme de construction vers l'avenir. Au peuple colombien qui rêve de paix, vous pouvez compter sur nous. La paix triomphera.
Voilà, Manuel Santos, le président, et Timoshenko, c'est comme ça qu'on l'appelle, le chef des FARC. À une courte majorité, je le disais, les participants, à ce vote ont décidé de rejeter le référendum sur l'accord de paix. Comment comprendre cette victoire du non? Pourquoi ce refus de mettre fin à un conflit qui dure depuis plus d'un demi-siècle? Et quelles en seront les conséquences? La paix est-elle encore possible en Colombie? C'est notre sujet ce matin avec Daniel Péco, spécialiste de la Colombie, directeur d'études de l'EHESS, auteur, je le dis, de cet ouvrage, Les FARC, une guérilla sans fin. En interrogation. Renée Frégosi également est avec nous, philosophe, directrice de recherche en sciences politiques à l'Institut des hautes études d'Amérique latine, et puis Marc Semo, bien sûr, notre partenaire du Monde. Marc, pour la première fois, on avait l'impression que la paix était possible. même s'il restait évidemment des obstacles, on avait l'impression que les conditions étaient réunies pour y croire. À juste titre, puisqu'on a eu cet accord qui était un accord historique. Voilà que par la volonté du peuple colombien, par la voie référendaire, elle se retrouve totalement remise en question. C'est un rebondissement qui est évidemment complètement inattendu. On attendait un plébiscite. D'ailleurs, c'est ça que cherchait le président Santos. Finalement, ce vote, il était juste là pour donner, c'est lui qui l'avait dit, une plus large légitimité à l'accord. On peut dire que c'est raté.
C'est raté. Le référendum, c'est toujours dangereux. Mais par ailleurs, toutes les parties, y compris celles qui ont voté non, disent, et probablement sont, favorables à la paix. Alors on peut toujours arguer d'une très faible participation, hein, 38%, mais en général en Colombie la participation est faible. En outre, ce référendum n'a pas de valeur juridique, mais c'est vrai que c'est un signal politique extrêmement fort. Et ce qu'il faut comprendre, c'est les raisons de ce non, et de ce point de vue-là, c'est que le cas colombien est révélateur de quelque chose d'autre. C'est-à-dire que face à des partis armés, aux autoproclamés représentants du peuple, il y a la réalité de populations qui ne veulent pas d'une paix sans justice. Les principaux arguments des partisans du non ont été celui, notamment, du jugement des auteurs d'exactions, alors effectivement de l'État, mais aussi des FARC elles-mêmes. La Colombie n'est pas l'Afrique du Sud, où l'ANC était le représentant de quelque chose de très profond dans le pays, ni l'Irlande du Nord avec le Sinn Féin. Les FARC sont un mouvement quand même profondément atypique. On pourrait appeler ça une espèce de narco-stalinisme avec des dirigeants qui d'ailleurs ont été beaucoup formés en Europe de l'Est. De ce point de vue, ils sont très différents des autres guérillas, y compris colombiennes. Ce qu'il faut voir aussi, c'est que au-delà des 200 000 morts et disparus du conflit, il y a eu 6 à 7 millions de déplacés. Et beaucoup de ces déplacés sont des gens qui avaient fui, bon, d'une part les exactions du pouvoir, mais aussi beaucoup, voire même plus, les recrutements forcés et ce que faisaient les FARC, et que pour tous ces gens-là, il est inacceptable de simplement tourner la page avec une espèce de paix des braves, en oubliant le fait qu'à la fin, les FARC ont été quand même vaincus, et que c'était parce qu'elles étaient vaincues qu'elles ont accepté ce processus de négociation, et que même, on verra maintenant, si le processus continue à aller à son terme, ce qu'elles pèsent électoralement, mais vraisemblablement, la plupart des observateurs disent que ce sera 5% le meilleur des cas, même si l'accord de paix leur garantit 10 élus. Donc de ce point de vue-là, il y a aussi, au-delà de l'effet fracassant de ce résultat du référendum, une espèce de réalité profonde de gens qui veulent une paix avec justice.
Vous voulez un autre effet fracassant, Marc Semaux, depuis le référendum? Vous savez qu'on choisit aujourd'hui le prix Nobel de la paix. On parlait beaucoup...
Colombie, c'est raté.
Eh ben non, c'est pas raté. C'est Juan Manuel Santos qui vient de l'avoir. On vient de l'apprendre il y a quelques minutes.
Je crois que, de toute façon...
Daniel Pécaud.
Le principe de justice transitionnelle avait été parfaitement accepté par la Cour pénale internationale et je ne crois pas que ça a été le motif principal. Ça a été le motif principal de la part de l'opposition du gouvernement Uribe qui disait qu'il était inacceptable que les commandants des FARC ne fassent aucun jour de prison.
Est-ce que vous trouvez justifié que Juan Manuel Santos, qui c'est vrai, pendant 4 ans, a œuvré pour trouver cet accord, ait aujourd'hui le prix Nobel de la paix?
Écoutez, et le problème, c'est que le président Santos, qui s'est battu pour ce processus de paix, avait une popularité de 25% ou 20%. Et... plus il combattait pour arriver à la bonne fin, il a consacré toute son administration au problème de la paix.
Donc c'est mérité.
Ce n'est pas étonnant. De l'autre côté, son concurrent, son prédécesseur Uribe, avait une cote de popularité de 60%.
Et donc, comme vous, qui lui dites, a fait campagne pour le nom. Justement. Donc...
Et comme vous le dites, là, pour un référendum, on ne vote pas nécessairement sur le problème.
Oui, c'est très rare d'ailleurs qu'on vote pour la question posée.
Voilà.
René Frégosi, une réaction justement à ce prix Nobel de la paix qui vient d'être donc donné au président colombien.
Oui, je pense que c'est assez significatif de la capacité des FARC à avoir une popularité beaucoup plus plus grande à l'extérieur qu'à l'intérieur. Historiquement, les FARC ont eu des soutiens à l'extérieur et notamment à la Commission européenne très très longtemps, jusqu'à ce qu'on se rende enfin compte de leurs exactions, de leur implication dans le trafic de drogue, etc. Et je pense que là aussi, ça ressort d'une méconnaissance. Parce que plutôt que de se centrer sur les gens qui ont voté non et qui en effet, comme le dit Daniel Pecaud, ce sont beaucoup des gens qui suivent Ourib et c'est un vote politique contre le président. Je pense qu'il faudrait, comme l'a évoqué Marc Sémot, réfléchir à pourquoi autant de gens se sont abstenus. D'accord, l'abstention est habituelle aux élections en Colombie, mais quand même, je pense qu'ils se sont abstenus parce que ils étaient coincés. Ils sont pour la paix, mais pas à ces conditions. Et en effet, moi, je suis absolument partisane de la justice transitionnelle, c'est-à-dire qu'on ne va, il faut trouver des compromis. Et on peut pas dire aux combattants, bon, maintenant vous laissez les armes et on vous met tous en prison, bien entendu. Mais le problème, c'est que, et ça c'est la différence avec beaucoup de processus de paix, c'est que les FARC n'ont jamais fait leur aggiornamento démocratique. Ils ont vaguement fait quelques excuses, mais on n'a pas bien compris. Ils n'ont pas assumé leurs crimes et demandé réellement pardon. En Afrique du Sud, la condition de l'impunité, c'était demander pardon. Ceux qui ne demandaient pas pardon ont été en prison. Et ceux qui avaient commis des crimes très graves.
Vous êtes dur, il y a quand même des excuses qui ont été formulées. Je pense par exemple à ce meurtre de parlementaires colombiens pour lequel ils ont dit que c'était les assassinats les plus idiots, les plus stupides de tout ce
que... Très tardivement.
Oui, bien sûr.
Dans les
bien
derniers
sûr.
Jours, Pecaud. Parce que précisément, il y avait une surprise que ces FARC étaient incapables de reconnaître leur part de responsabilité alors que l'État avait reconnu la sienne et les groupes paramilitaires et les militaires avaient reconnu les leurs.
Daniel Pecaud, est-ce que l'accord il est enterré? Est-ce que le cessez-le-feu il est en danger? Est-ce qu'on peut s'attendre à ce que les combats reprennent, pourquoi pas, entre l'armée colombienne et les groupes paramilitaires et les FARC? Et est-ce que finalement ce prix Nobel de la paix il peut avoir un effet surtout? Est-ce qu'il peut sauver cet accord, ce référendum?
Je pense qu'on ne peut pas sortir de cet accord. C'est une base. Il va y avoir quelques modifications à la marge.
Les FARC. Il sera appliqué quoi qu'il arrive.
Ça va être très compliqué, très long, mais les FARC ne peuvent pas reprendre les combats. Et les troupes des FARC ont tendance déjà à se replacer dans les régions qui devaient leur être assignées. Les forces armées, qui ont une domination évidente maintenant grâce à la force armée la plus moderne d'Amérique latine, peuvent neutraliser tout effort des FARC. Le problème est différent, c'est que c'est un conflit à multiples dimensions, parce qu'on parle du conflit armé. C'est effectivement, on dit depuis 62 ans, ce qui est faux, veut dire...
Mais ça a commencé un peu avant.
Pendant longtemps, non, même pas, parce que les FARC sont devenus vraiment une guérilla combative que dans les années 80. Avec le trafic de drogue, c'est le trafic de drogue qui a à la fois produit le nouveau dynamisme de toutes les guérillas et qui a produit la crise des institutions, la neutralisation de la justice, la corruption de la classe politique, etc. Autrement dit, ça a créé une atmosphère favorable, etc. Quant au reste, je dis, le grand problème pour la négociation, c'est qu'il y a effectivement, non pas une mise en cause du mécanisme de la justice transitionnelle, mais une rage contre les FARC, alors que les paramilitaires sont accusés d'un plus grand nombre de crimes et de massacres que les FARC. Les FARC, par le fait même de la superbe qu'ils ont affichée, de leur refus de reconnaître leur part de responsabilité, sont haïs par une grande partie de l'opinion. Et beaucoup de commentaires de journaux disent ce sont les villes qui ont été les plus hostiles à l'accord parce que les gens ne sont pas affectés par le conflit. Et que dans les zones rurales les plus touchées par le conflit, c'est là qu'on a voté pour le oui. C'est largement faux. Et si on prend les endroits les plus dévastés par le conflit, il y a eu un vote non, surprenant. Et dans beaucoup de cas, le vote oui dans les périphéries rurales est un vote où, qui correspond au fait que les FARC continuent à être un acteur politique, social, important.
Je rappelle qu'il était question de se prononcer sur le texte, sur l'accord de paix qui avait été trouvé. On va essayer d'ailleurs tout à l'heure un peu de décrypter, voir ce qu'il y avait en profondeur dans cet accord-là. Marc Semo et puis René Frégosi. Marc Semo.
Justement, dans une guerre longue, c'était une guerre donc de quand même quasiment un demi-siècle, il y a finalement une économie de la guerre qui se met en place. On l'a vu avec les FARC qui ont prospéré avec le trafic de drogue. Est-ce que justement, de ce point de vue-là, il n'y a pas un risque qu'une partie des FARC décide finalement de faire du trafic de drogue sans idéologie et voilà continue à faire prospérer ces circuits sans à leur propre compte et qu'il y ait une difficulté, y compris pour la direction des FARC, de tenir l'ensemble de leurs troupes.
C'est un des vrais problèmes et le fait que l'accord n'ait pas été ratifié donne encore plus d'acuité à ce problème. Parce que les FARC pouvaient maintenir la discipline dans leurs combattants, ça va pas de soi. Démobiliser, il faut leur fixer des perspectives politiques. Maintenant que l'accord est ajourné, à tout le moins, voilà que les FARC vont avoir beaucoup plus de mal à fixer une discipline, à maintenir une discipline. Beaucoup de combattants de base vont être tentés. Il y a des régions entières où il y a déjà des interférences entre les réseaux de narcotrafiquants, les FARC, les LN, tout ça se mélange. Il y a plusieurs régions limitrophes des frontières vénézuéliennes, limitrophes des frontières équatoriennes, où il y a ces interférences.
Ouais. Techniquement, il n'est pas vraiment ajourné, parce qu'on peut imaginer que le Parlement le valide quand même. C'est techniquement tout à fait possible, juridiquement possible.
Absolument.
René Frégosi.
Oui, mais de toute façon, avec ou sans accord, et ça c'est aussi une des raisons, une des réticences de l'électorat à appuyer, à dire oui à ce référendum, c'est que avec ou sans accord, effectivement, les anciens guérilleros des FARC vont s'égayer et vont peut-être, comme ça a été le cas au Nicaragua, avec les combattants de la Contra et les sandinistes démobilisés, souvent ensemble dans les mêmes bandes de brigands, vont créer des gangs, recomposer des gangs, etc. Ça, c'est une des craintes. Mais il y a aussi, Daniel Pecco aussi vient d'évoquer le Venezuela. Il faut évoquer le Venezuela et Cuba dans cette affaire. D'abord, cet accord, il a été fait sous l'égide de Cuba. D'accord, il y avait d'autres pays, mais enfin sous l'égide de Cuba.
Oui, Cuba, ça s'est passé à la Havane.
Oui, mais c'est toujours le parti communiste cubain est toujours bolchevique, c'est toujours une dictature communiste. Ils n'ont pas fait leur adjournamento démocratique et ils sont la tutelle des FARC. Deux, les Colombiens, ils voient la catastrophe vénézuélienne, ils connaissent les liens entre le pouvoir chaviste et les FARC. Enfin, tout ça contribue à un manque de confiance dans l'issue post-accord. Donc c'est pour ça aussi, à mon avis, qu'il y a autant de gens qui se sont abstenus. Ils sont pour la paix, mais ils n'ont pas confiance du tout dans cet accord.
Et puis pas à ce prix-là. Daniel Pecco, vous faisiez un peu l'amour.
Il y a une vision de plus long terme.
Allez-y.
C'est que le conflit armé a permis de maintenir la stabilité sociale de la Colombie. Tant qu'il y avait conflit armé, il n'y avait pas de mouvement revendicatif. Ils ont été écrasés, liquidés. Tous les leaders sociaux ont été éliminés par les paramilitaires, les militaires et éventuellement aussi par les FARC. Donc c'est un pays qui a supporté ces je ne sais combien d'années de conflits armés avec un taux de croissance très satisfaisant, avec une stabilité des entreprises, tout l'économie fonctionnait pas mal, et que d'une certaine manière, le fait que toute l'attention de la Colombie était concentrée sur l'évolution du conflit armé, qui ne touchait pas tout le monde. Ça touchait les zones périphériques, les gens qui vivaient dans les villes, à part la peur de l'enlèvement, ça ne les affectait pas tellement.
Mais attendez, vous êtes en train de nous dire que les Colombiens ont voté contre ce référendum parce qu'ils ont peur que ça déstabilise
absolument
un pays qui aurait été structuré économiquement, du point de vue sociétal, du point de vue politique,
ça
par le conflit.
Ça cause des problèmes sociaux de fond. Qui ont été ajournés pendant 30 ans, 40 ans.
Mais j'entends parfaitement. J'entends très bien parfaitement. J'entends parfaitement l'idée selon laquelle le pays s'est structuré, finalement, pendant un demi-siècle, autour de ce conflit. De là à dire que les Colombiens ont refusé cet accord parce que, précisément, ils ont peur du vide, ils ont peur de l'après-conflit, de ce que sera la Colombie, s'il n'y a plus ce conflit qui structure la société, il y a un pas quand même, Daniel Pecaud.
Ils ont très peur que les FARC se métamorphosent. Non pas en un parti politique puissant, parce que leur impopularité est telle que ce n'est pas le problème. Absolument. Mais se métamorphose en agitateurs sociaux et à la tête des mouvements de revendication, encore une fois, qui, depuis 30 ans, ont été écrasés, étouffés, etc. C'est un pays dont les leaders sociaux ont été tous éliminés. Et donc, voilà qu'on attend un réveil, et la grande peur, je pense, dans l'opinion, c'est que ces FARC deviennent les leaders, des leaders sociaux, et que, d'un seul coup, les problèmes d'équilibre, ce merveilleux taux de croissance qu'a eu la Colombie, ça pourrait retomber.
Et la peur qu'ils deviennent des leaders politiques, parce que ça aussi, c'est prévu par l'accord, on va y venir tout de suite. René Frégosi.
C'est vrai, c'est pas tellement qu'ils deviennent des leaders politiques, mais des agitateurs, et aussi... On parle de réinsertion. Il y a quand même 9% de chômage en Colombie. C'est vrai, la croissance, c'est le troisième pays en Amérique latine. Il y a environ 3-4% de croissance, on en rêve. Bon, d'accord, ok. Mais il y a le problème de la réinsertion de ces guérilleros. Il faut leur trouver du travail. On va leur donner du travail en priorité par rapport aux demandeurs d'emploi normaux, entre guillemets. Bon, je veux dire, ça aussi, ça pose un vrai problème. La réinsertion dans le monde économique, dans le monde du travail. Donc, il y a des tas de problèmes qui sont pas du tout réglés. Donc, ils ont peut-être pas voté non, mais ils se sont abstenus, là, certainement, pour toute cette série de problèmes qu'on a évoqués là.
Daniel Pecaud, ils se sont pas exprimés à cause de ce souci de la réinsertion qui n'aurait pas été abordée par l'accord?
Je pense qu'elle a été abordée dans des conditions qui sont les conditions qui ont toujours eu lieu en Colombie. On donne une certaine aide financière pendant un certain temps aux combattants.
C'est ce qu'on avait déjà fait plusieurs fois dans les années.
C'est ce qu'avait été fait avec beaucoup plus de générosité dans le cas du M19.
Le M19, voilà.
Et je pense que c'est inévitable si on veut éviter que les anciens combattants ne dépendent entièrement des ressources de la guérilla. Donc, c'est un choix, mais effectivement, ça choque beaucoup de gens qui vous disent « c'est pas normal qu'ils touchent presque un salaire minimum alors que c'est des subversifs ».
Mais alors, Marc Sémo.
Justement, vous évoquiez tout à l'heure l'impopularité. Oui. Politiquement, les FARC resteront, selon vous, un acteur assez marginal sur la scène politique? Stricto sensu. En termes de poids électoral, c'est quoi? C'est 5% selon vous, ça va être des
oppositions? Non, ils partent de rien du tout. La gauche est extrêmement faible. Elle a été affaiblie parce qu'une gauche pacifique ne peut pas coexister facilement avec une gauche armée. Et donc, il faudra, je crois que la capacité de devenir vraiment une force politique importante devoir attendre pas mal de temps. En revanche, dans un certain nombre de régions, dans la mesure où il y a effectivement cette situation de concentration extrême de la propriété de la terre qui n'a fait qu'empirer grâce au conflit armé, c'est devenu absolument sidérant, la concentration de la terre. Même si ça ne concerne pas les mêmes quantités de paysans qu'il y a 50 ans. Les paysans, maintenant, ils ont leurs fils en ville. Mais malgré tout, c'est insupportable, une situation avec une telle concentration. Les inégalités de revenus, même si le pourcentage de gens dans la misère absolue a diminué ces dernières années, reste énorme. Et donc, tout le monde est d'accord que ça suppose des plans d'investissement, de modernisation des zones rurales, de présence de l'État dans toutes les zones périphériques. La Colombie, c'est un pays dont l'État n'est pas présent dans une grande partie du pays. Ça suppose des efforts énormes, et donc les gens peuvent douter et peuvent penser que dans ce vide, il peut s'établir une situation difficile. Mais si je permets juste d'ajouter une chose, c'est que le fonds conservateur, qu'est-ce qu'a été le vote pour le non? C'est que d'un seul coup, un front conservateur colombien, l'influence des anciens partis, des régions conservatrices, l'influence d'une église catholique qui est en partie ultra-conservatrice, l'influence des évangélistes a fait que tout ça s'est ajouté pour dire « attention, péril, ce sont mes valeurs, là aussi, notre identité, comme on dit en France, qui est en péril ». Et comme on le dit, il y a le ministre de l'Éducation qui a distribué aussi ses petits cahiers à l'usage des collèges, qui parlait de théorie de genre, et ça a fait éclater le scandale. Et la Colombie venait d'adopter le mariage homosexuel. Pour beaucoup, c'était trop. Pour les évangélistes, pour la branche réactionnaire de l'Église catholique, c'était trop. Tout ça s'ajoute, voilà qu'a resurgi la Colombie très conservatrice.
Ouais, d'ailleurs, sur ce point-là, il y a un très bon papier dans le journal Le Monde qui évoque cette question-là. J'imagine que vous l'avez lu également. René Frégotti, sur la question de la représentation et du poids politique dont parlait Marc Semo. Faut rappeler que cet accord prévoit que la guérilla marxiste narco-staliniste, pour reprendre la formule de Marc Semo, elle pourra bénéficier, si l'accord est mis en place, d'une représentation politique. En gros, ils vont pouvoir avoir un parti. Au début, on va même leur réserver 5 sièges au Parlement, 5 sièges au Sénat pendant 8 ans, et puis après, ils se débrouilleront seuls. Mais cette incursion des forces d'extrême-gauche au Parlement, c'est quelque chose, évidemment, qui a été très mal vécu par une certaine frange de la société. Tout à l'heure, Daniel Pecot nous parlait du fond conservateur. Finalement, ce fonds conservateur, il a peur que le pays ne s'engage vers un virage communiste, chaviste, qui serait désastreux pour le pays.
Je pense pas, mais comme l'a bien dit Daniel, c'est pas tant qu'on craint un parti communiste fort, parce qu'aujourd'hui les partis communistes, ils sont tous en débandade. Mais par contre, comme l'a dit fort justement Daniel, moi, je veux dire, Daniel, c'est vraiment le spécialiste de la Colombie. Moi, je connais vaguement. Hein, bon, donc j'ai une vision beaucoup plus généraliste des choses, mais comme le dit absolument justement Daniel. C'est un parti armé, en armes. C'est une guérilla qui a sapé les possibilités de développement d'une gauche démocratique. Aujourd'hui, s'ils sont plus en armes, en fait, je veux dire, s'ils sont un parti communiste normal, civil, ils représenteront pas grand-chose. Donc, c'est pas cette peur-là, c'est pas la peur que les FARC se structurent en parti communiste dominant. Ça, effectivement, puis avec le fond conservateur, effectivement, de la Colombie, c'est vrai. Non, c'est le problème est autre. C'est plutôt qu'ils se maintiennent comme des ferments. D'une part, de contestation, d'agitation sociale. Ça, c'est la droite qui craint ça. Mais du côté de la gauche, en fait, bien sûr que la gauche aurait tout intérêt à ce que la lutte armée s'arrête pour pouvoir enfin s'unir et développer une vraie gauche démocratique. Il y a eu des tentatives, notamment autour du M19. Effectivement, lorsqu'il est revenu, mais il était tout petit. Ensuite, il y a eu des tentatives d'agrégation de différents partis. De gauche,
c'était
mais là
c'était essentiellement en plus un mouvement qui se situait en ville, c'était pas un mouvement de rural, le M19.
Le M19 pour l'essentiel et avec beaucoup de gens de classe moyenne.
Ouais, c'est ça.
Et puis, le problème de la gauche démocratique, c'était aussi qu'elle était souvent, de moins en moins vers la fin, hein, mais au début, divisée sur ceux qui étaient radicalement contre la guérilla et d'autres. Ils n'étaient pas pour, mais ils n'osaient pas dire qu'ils étaient contre. Donc, la guérilla empêchait l'émergence d'une véritable alternative de gauche démocratique.
Daniel Pecot, je ne voudrais quand même pas qu'on passe à côté de ce qui est peut-être l'essentiel de cet accord, c'est-à-dire la justice transitionnelle. Un certain nombre de voix se sont élevées justement pour dénoncer les mécanismes qui sont prévus par cet accord, considérant en réalité que ça garantissait une certaine impunité aux FARC. Est-ce que c'est justifié ?
C'est le style d'accord qui a été pratiqué dans beaucoup de pays et là, beaucoup plus rigoureux que dans d'autres cas. Mais il est vrai qu'il y a un vrai problème. Parce que parmi tous les commandants des FARC qui ont négocié à La Havane, sont des gens qui sont responsables des abus des fronts. Par exemple, sur le problème des enlèvements, Il est considéré que les enlèvements peuvent être considérés comme des connexes, c'est-à-dire avec des raisons politiques. Le problème, c'est que beaucoup de ces enlèvements ont été marqués par des cruautés, que beaucoup de gens sont morts pendant leur enlèvement, que souvent les gens ont réclamé, les FARC ont réclamé trois fois des rançons alors que la personne était morte. Autrement dit, c'est des crimes de guerre.
Et donc, et qui ne seraient pas pris en charge par le fameux tribunal spécial qui devrait être mis en place?
Si. Mais précisément, tout dépend de la manière dont la justice, les tribunaux de paix vont juger ça. Il y a un problème sur la manière dont sont classés les délits atroces, les délits de crimes de guerre, dans quelle mesure ceux-ci, même si les responsables des FARC les avouent, les confessent, peuvent leur donner des peines atténuées, ou dans quelle mesure il s'agit de crimes de guerre qui devraient les empêcher d'entrer trop rapidement dans la carrière politique. Mmh. Et ça, c'est un problème qui restait flou dans cet accord, puisque supposons...
C'est la raison pour laquelle, finalement, ce référendum a abouti à un non ?
Je pense pas. Et beaucoup plus, c'est vraiment des grands mythes. Uribe a réussi à persuader que c'était la voie vers le castro-chavisme, qui était la chose la plus absurde du monde, dans la mesure où tous les Colombiens ont le plus grand mépris pour ce Venezuela qui s'enfonce. C'était la chose la plus absurde. Mais ça a pris sur fond de la rage contre les FARC.
Je vous propose, Daniel Pecaud et René Frégosi, de clore cette émission en élargissant un tout petit peu les choses. Parce que la région, elle est devenue particulièrement instable. Vous parliez tout à l'heure du Venezuela, René Frégosi. Il traverse évidemment une crise politique, institutionnelle, économique, sociale absolument majeure. Il y a des pénuries qui font fuir les gens. D'ailleurs, on avait justement réouvert la frontière entre la Colombie et le Venezuela pour que les gens puissent se réfugier en Colombie. On a plus loin, évidemment, aussi ce Brésil avec ce que certains ont considéré comme un coup d'État institutionnel avec la mise à l'écart, l'empêchement de Dilma Rousseff. On a aussi une Argentine qui, depuis maintenant presque un an, a un nouveau président, Mauricio Macri, mais qui là aussi navigue entre récession et conflits sociaux. Est-ce que l'Amérique latine s'apprête, dans son ensemble, à traverser une zone de turbulence ? René Frégosi.
Écoutez, l'Amérique latine, c'est comme l'Europe, elle est effectivement face à la crise de la démocratie. Mais on l'a vu avec les Philippines tout à l'heure. La démocratie est insatisfaisante et donc on a à la fois des exigences qui disent qu'elles sont démocratiques, elles veulent de la démocratie directe, elles veulent que le peuple puisse s'exprimer, etc. Mais en fait, ils veulent mano dura. Ils veulent la main dure. On le voit aux Philippines, on le voit en Europe, on le voit en Amérique latine. En fait, c'est la démocratie qui est déstabilisée parce qu'elle n'a pas su, elle n'a pas pu donner satisfaction aux gens. Et aujourd'hui, les gens ont la parole et donc et le vote.
Ils veulent la démocrature.
En fait, ils veulent la démocrature. Voilà. Au nom de la démocratie, en fait, ils veulent un pouvoir fort.
Daniel Pecaud.
Je suis tout à fait d'accord. Ce qui est le problème pour la Colombie, c'est que les partis politiques sont en crise profonde. Ils sont complètement émiettés et disloqués. C'est que les institutions connaissent une crise assez forte. La corruption est au cœur de la vie politique, mais pénètre la justice, les cours, le Conseil d'État, la Cour constitutionnelle. C'est donc un problème majeur. Et encore une fois, l'État n'arrive pas à se rendre présent dans beaucoup de périphéries. Donc, c'est beaucoup de défis à la fois. Et c'est vrai que reconstituer la vie démocratique alors que les partis s'effritent, c'est très difficile. Et personnellement, ma crainte est que, suite à cet échec de la signature, d'ici un an et demi, en 2018, il va y avoir un courant très à droite qui va se formuler avec l'appui d'Alvaro Uribe, qui ne peut pas être candidat, mais qui va soutenir des candidats.
Il va revenir, en tout cas, l'idéologie qu'il porte va revenir.
Vous pensez il est très
c'est une victoire présent. Politique qu'il a eue là quand même.
Hein. Il est très présent et il est d'une extrême habileté. Oui. Mais il ne demande pas qu'on tue tous les consommateurs d'Europe.
Oui, c'est si un petit peu plus nuancé que la dose. Rodrigo Duterte. René Frégosi.
Oh, tout à fait d'accord avec ce que vient de dire Daniel. En effet, Uribe est un des grands vainqueurs de ce référendum que Santos aurait sans doute pas dû mettre en œuvre. Mais ça, bon, les référendums, moi, je ne suis pas très favorable. Sauf, excusez-moi, il ne faut pas confondre ce référendum et, par exemple, le référendum au Venezuela. Hein. Le référendum révocatoire au Venezuela contre Maduro, que Maduro refuse alors qu'il est constitutionnel.
Ah, donc il y a référendum et référendum, quoi.
Oui, parce que ce référendum révocatoire, c'est un référendum clair, c'est un plébiscite. Vous voulez garder le président ou vous voulez le virer? Ça, oui, ça c'est la question. Elle est claire, elle est explicite. C'est pas on vous pose une question pour savoir si vous appuyez ou pas le président.
Bah, la question, elle était claire. C'était de se prononcer, savoir si cet accord était un accord pour la paix.
Mais lorsque c'est une question sur un thème, on vote pour ou contre le président, pour ou contre celui qui a posé la question.
Ah oui, donc
aussi.
Oui, d'accord. Donc quand on pose clairement la question sur le président, c'est un peu plus clair.
Lorsque c'est un plébiscite, c'est clair. Et au Venezuela, 80% de la population rejette le président. Ouais. Et ça, ils l'ont montré par d'autres élections en décembre dernier, en votant aux deux tiers pour l'opposition à l'Assemblée nationale.
Ça fait quand même dans la même année deux ratés absolument exceptionnels avec cet objet référendaire, hein, le Brexit au milieu de l'année et là la Colombie. Alors on verra si le prix Nobel qu'on donne à Juan Manuel Santos sauve cette affaire-là, mais on a quelque chose quand même qui ressemble à ça. Hein.
Ça ressemble au Brexit.
Daniel Pecco.
Parce que c'est involontaire. Je crois que, y compris du secteur du côté Uribe, c'était pas souhaité. Il souhaitait faire un score abondant. Tous les sondages prévoyaient la victoire du oui. Et donc, ils n'ont pas vraiment voulu. Et je pense, Uribe, mais alors, le problème, qui peut négocier maintenant? Santos n'a plus l'autorité pour.
Il a le prix Nobel. Attendez, ça donne une autorité morale.
Mais j'en suis très heureux. Ouais. J'en suis très heureux.
Non, c'est mérité. Comment mérité. Pour les efforts.
J'en suis très heureux. Mais Timoshenko ne l'a pas. Non,
c'est juste Santos.
Santos, mais c'est excellent, parce que si on voit la capacité de négociation qu'a eu Santos et son équipe, remarquable. De mujeres y hombres mal pagados, mal formados, de los campesinos amenazados. Venimos a hablar de paz, pero no estamos asustados. Ustedes cuidan sus negocios, su bienestar interno. A nosotros nos duele, pues nos preocupa el pueblo. Se muestra en cada lucha, todo el mundo puede verlo. Aunque intenten corrernos con recursos modernos, pues tienen... Voilà, c'est avec ce rap colombien qu'on se quitte. Merci beaucoup à tous nos invités. Maximo Dumonde, évidemment, comme chaque vendredi. René Frégosi, je rappellerai Les Nouveaux Autoritaires, qui est paru cette année aux éditions du Moment. Et Daniel Pecco, Les FARC, une guérilla sans fin, point d'interrogation, qui a été publié maintenant en 2008, mais qui finalement est toujours d'actualité. Merci beaucoup. Il y a beaucoup d'autres publications en
espagnol. Absolument, absolument. Merci beaucoup à tous. Dans un instant, dans quelques secondes, on retrouve Brice Couturier.
Le tour du monde des idées, Brice Couturier.
Et on finit ce tour du monde hebdomadaire autour du conservatisme britannique. Bonjour Brice.
Bonjour Florian.
Alors, il y a en Grande-Bretagne, comme dans d'autres pays européens, un parti conservateur. En France, personne ne se réclame ouvertement de ce courant de pensée, même parmi les grands intellectuels. Comment l'expliquer?
Oui, François Huguenin se désolait dans un livre paru il y a juste 10 ans, Le conservatisme impossible, que cette école de pensée ait disparu du paysage intellectuel français. C'est pourtant en français que ce mot a été créé lorsque notre Chateaubriand lança son propre journal en 1818, le conservateur qui devait d'ailleurs se saborder 2 ans plus tard pour protester contre le retour de la censure. 2 siècles plus tard, le conservatisme est bien vivant, mais chez les autres. La meilleure preuve en est fournie par l'excellente étude que vient de faire paraître Jean-Philippe Vincent aux Belles Lettres. Qu'est-ce que le conservatisme, histoire intellectuelle d'une idée politique? Eh bien, pour dénicher un dirigeant politique conservateur selon son cœur, l'auteur doit remonter jusqu'à Georges Pompidou et à André Tardieu. Il reconnaît pour conservateur un grand nombre de penseurs du XIXe siècle, les habituels suspects, Rivarol, Guizot, Le Play, Renan, Prévost, Paradol, mais dès qu'on aborde aux rives du XXe siècle, la plupart des auteurs qu'il explore sont étrangers. et il lui faut accaparer le libéral Bertrand de Jouvenel pour étoffer quelque peu une représentation française maigrelette en comparaison des gros bataillons anglo-saxons. Chesterton, Michael Oakeshott, Alistair MacIntyre, Robert Nisbet, Richard Weaver, Daniel Mahoney, Russell Kirk, etc. etc.
Est-ce que, Brice, ce livre évoque la figure de Roger Scruton, dont on a parlé déjà cette semaine, qui vient de paraître, le livre vient de paraître, de l'urgence d'être conservateur?
Oui, mais très brièvement et uniquement sous deux angles. Le conservatisme scrutonien, selon Jean-Philippe Vincent, illustre bien l'une des tendances fondamentales de cette doctrine politique. Elle refuse de fixer aux associations sociales un autre but que leur propre existence. Continuer à être ensemble, persévérer dans son être collectif sans chercher à incarner une valeur transcendante. Ce qui s'expliquerait par le rapport particulier au temps qui est celui des conservateurs. Car alors que le progressiste pense le présent comme un point de départ radical et détermine son action par rapport à un avenir déterminé et espéré, le conservateur considère au contraire le présent comme l'aboutissement provisoire d'un passé qui le détermine. Le progressiste fixe sa marche sur l'étoile qu'il croit devoir suivre, le conservateur s'en tient à ce qu'il croit savoir du passé et il se méfie des promesses d'un avenir radieux. Le sens de sa marche lui est prescrit par le chemin suivi par ses ancêtres. C'est pourquoi, estime Jean-Philippe Vincent, le conservateur doit devoir agir sur ce présent avec précaution. La vertu qu'il affectionne par-dessus tout, c'est la prudence. C'est une manière de signifier sa méfiance envers ceux qui fixent à la société des objectifs a priori. Mais le lecteur attentif de ce livre remarquera, dans le premier chapitre de son livre, Jean-Philippe Vincent tient pour idéalement conservateur la phrase de Russell Kirk selon laquelle, je cite, « la société ne se suffit pas à elle-même, que sans un élément de transcendance, elle court le risque de s'idolâtrer, ce qui la conduit presque inévitablement à diviniser le pouvoir qui la conduit. » C'est la critique, souvenons-nous, faite par Éric Feuguelin aux religions politiques. Avec l'État-nation moderne, expliquait Feuguelin, autre penseur conservateur, se créent des communautés closes, dotées d'un centre d'existence qui repose en elles-mêmes, et leurs dirigeants se divinisent eux-mêmes à mesure que le sommet de leur hiérarchie se coupe de toutes les dimensions divines, de toute cette chaîne de l'être dont elles avaient cru dépendre au cours des siècles prémodernes. Eh bien, voyez-vous, Florian, ces deux idées m'apparaissent contradictoires. Le conservatisme juge-t-il que la société se suffit à elle-même ou bien au contraire qu'elle a besoin de voir sa cime enveloppée par les nuées divines? Deuxième trait typiquement conservateur illustré par Roger Scruton, toujours selon Jean-Philippe Vincent, la préférence pour un système d'autorité plutôt que de pouvoir. Explication par un recours à l'histoire romaine, car les conservateurs considèrent, paraît-il, Cicéron comme le fondateur de leur doctrine politique. L'auctoritas latine résulte de la dignité de chef de famille, d'homme libre et de citoyen romain. L'imperium renvoie, lui, au pouvoir de l'État incarné par l'empereur. L'auctoritas relève du social, l'imperium du politique. Et pour les conservateurs, l'autorité s'oppose au pouvoir. C'est pour défendre l'autorité, la dignité, la liberté et la propriété des hommes libres face aux tendances de l'État à les en dépouiller que les conservateurs apprécient les corps intermédiaires, les pouvoirs locaux, les assemblées d'essence aristocratique telles que notre Sénat. Scruton, pour revenir à lui, fait un parallèle intéressant entre la souveraineté nationale et celle des individus. Le citoyen d'une démocratie n'est tenu à l'obéissance envers l'État que dans la mesure où celui-ci respecte sa souveraineté, dit-il, c'est-à-dire sa liberté et ses biens. En tous les cas, on le voit, Florian, la pensée conservatrice est en train de renaître de ses cendres.
Merci beaucoup, Brice. Et pour plonger justement dans cette pensée conservatrice britannique, il faut lire donc cet ouvrage de Roger Scruton, De l'urgence d'être conservateur, qui vient d'être publié. Merci beaucoup, Brice, pour cette passionnante série sur le conservatisme britannique qu'on peut retrouver sur le site de France Culture, www.franceculture.fr. On cherche Tour du monde, des idées, et on trouve votre page, Brice, et il faut s'inscrire au podcast. Voilà.
Oui.
Ça y est, c'est fait. Merci beaucoup, Brice. On se donne rendez-vous lundi prochain. Dans un instant sur France Culture, c'est La Grande Table avec Olivia Gesbert.